C'était à Cherbourg. Nous venions de cheminer pendant près de 3 heures rue de l'Abbaye, je devais avoir une douzaine d'années à cette époque. Je marchais toujours entre mon père et ma mère, mais on ne me tenait plus par la main et je pouvais de loin en loin faire une remarque. À condition qu'elle ne soit pas sotte. J'avais demandé, une demi-heure plus tôt, s'il n'était pas possible de pousser jusqu'au port. J'aimais voir de près les bateaux gris que mon père appelait les contre-torpilleurs, et de loin, les cheminées des transatlantiques de la Cunard Line mouillées dans la rade. Mon père s'était contenté de répondre brièvement « Fais ce qu'on te dit ». Un de ses principes était qu'on ne doit jamais donner d'entorse aux itinéraires. Cependant, mon projet devait lui trotter dans la tête, car il dit soudain d'une voix placide « On pourrait peut-être aller jusqu'à la place Napoléon, qu'en dis-tu, maman ?» Ma mère ne répondit pas tout de suite. Elle était méfiante comme un renard des sables. Pour elle, cachait un piège toute proposition étrangère au dialogue qu'elle avait fixé une fois pour toutes avec mon père et qu'il se récitait ponctuellement chaque jour. Mais la curiosité chez elle égalait la méfiance, elle voulut voir ce que dissimulait cette idée à la fois insolite et fade d'aller du même pas jusqu'à la place Napoléon. L'empereur était toujours à califourchon sur son cheval de bronze, un doigt pointé sur l'Angleterre. Mon père tira vers la droite en direction du quai Coligny. « J'ai bien envie, dit-il, d'aller voir ce qui se passe au grand balcon. Mes collègues y vont tous les dimanches et j'ai l'air d'un sot quand ils en parlent. » Fantaisie énorme et folle, capable de faire chanceler une raison de famille aussi roide que la raison d'État. Ma mère porta sa main gantée à son cœur, son visage était devenu mauve, elle serra durement les lèvres et je vis une sorte de peur passer dans ses yeux. Le grand balcon était alors un honnête cafconce fréquenté par les familles bourgeoises en fin de promenade. Je revois encore la salle carrée et les petits buveurs endimanchés, le pianiste devant l'étroite scène où passaient les diseuses comiques et les jongleurs. On entendait répéter le nom du pianiste, le professeur Amerlinx, célèbre dans tout Cherbourg par ses doigts couverts de bagues et ses longs cheveux noirs. Amerlinx était mon professeur de piano. Qu'un homme, paré du titre de professeur, dignité formidable devant laquelle ma mère se prosternait, pût se faire voir dans un lieu plein d'alcool et de fumée où se concentrait visiblement toute la débauche de Basse-Normandie, voilà qui ébranlait une conception du monde. En bon colonial, mon père ne rechignait pas devant les boissons fortes. À condition, disait-il, d'en user avec modération. Ma mère raconta par la suite qu'il s'était avili ce jour-là jusqu'à boire publiquement un mandarin citron. Elle-même commanda un porto qu'elle dédaigna et pour le petit, une grenadine. Ma mère se tenait le buste droit et ne regardait rien. L'effronterie de mon père l'épouvantait. De retour à la maison, elle se sentit plus à l'aise, comme le taureau qui vient de trouver sa querencia. « Comment est-il possible, dit-elle, qu'un homme qui enseigne au lycée ait la permission de se montrer dans des endroits pareils ? J'irai voir le proviseur pas plus tard que demain. Tu as remarqué comme il levait les mains pour nous épater au-dessus de sa tête et comme il secouait ses cheveux ?»« Amerlinx n'est pas un professeur, dit mon père. C'est un artiste. Tu n'as pas vu son gilet ? Et cette fille qui est venue chanter cet air affreux de... Comment dis-tu ? Carmen. » Ses cheveux noirs, ses yeux de poule, ses cils d'un mètre et cette façon de se balancer pour faire voir son gros derrière. Tu ne crois pas que c'est honteux, ça ?
C'est très connu, Carmen. Ça joue partout. L'auteur a son nom dans le dictionnaire.
Quand j'étais jeune fille, on m'a traînée 2 fois au théâtre. J'ai vu le Cid et un autre jour Roméo et Juliette. Oh, ma chimène ! Oh, mon Roméo ! Disait-elle d'une voix pâmée en ouvrant les bras et en levant les yeux au plafond. Faut-il être bête pour écrire des choses pareilles ? Crois-tu que si nous avions un vrai gouvernement, il laisserait ouvert ses cafés et ses théâtres ? L'amour est enfant de bohème ! Quand on pense qu'il y a des femmes qui passent leur vie à chanter ça et d'autres femmes qui vont les entendre alors qu'elles auraient tant à faire à la maison !»